L'actualité de ce mardi 3 mars 2009, un drame à Paris hier soir, une jeune fille de 15 ans s'est suicidée sur le pont des Arts. Elle se serait tirée une balle dans la tête et n'a laissé aucun mot d'explication. Une cellule psychologique a été ouverte dès ce matin dans son collège parisien.
Ce jour-là, quand on est arrivé sur ce pont, c'était évident qu'il s'était passé ça, que c'était elle, qu'il n'y avait pas de doute, mais on ne veut pas y croire. Enfin, on est complètement assommé. Enfin, je pense que assommé est quelque chose même de faible. Nous avons passé presque toute la nuit au commissariat de police pour faire la déposition. C'était l'horreur. On a prévenu son frère en pleine nuit. Et 8 jours se sont passés à l'Institut médico-légal. Et c'était comme si je flottais. J'ai travaillé à peu près normalement. Je faisais une conférence le lendemain. Je ne l'ai pas annulée. J'avais l'impression de flotter complètement. Et en même temps que ça me tenait. Je crois que heureusement que je ne me suis pas arrêtée. Son père, qui était mon ex-mari, parce qu'on s'était quittés, on s'était séparés 4 ans avant. Son père est resté très présent à côté de moi. Des amis m'ont accompagné pendant longtemps, sont restés à la maison pour rester dormir. J'ai été particulièrement soutenue par ses amis, par des amis proches. Ce qui suit un événement pareil, c'est la sidération. Puis d'apprendre aussi qu'elle avait en fait volé cette arme à son grand-père. Donc c'était un acte quand même pensé, délibéré. J'ai lu à ce moment-là beaucoup de choses. J'ai cherché dans ces papiers ce qui pouvait nous aider à comprendre.
Parents pour la vie, un documentaire de Clara Lecoq-Réal.
Le 18 avril 2009, c'était un samedi, et Romane est partie avec des amis en discothèque. Et au bout d'un certain temps, les 4 passagers ont souhaité quitter la discothèque et rentrer chez l'un des amis. Ils ont cherché leur ami chauffeur et ils ne l'ont pas trouvé, donc ils ont décidé de faire du stop. Bien qu'il y ait 3 km, au bout de très peu de temps, ils ont vu que le chauffeur conduisait doucement, mais qu'il n'était pas bien, en fait, ils sont aperçus qu'il avait beaucoup bu. Et puis, à un moment, ils ont été doublés par une voiture, et à ce moment-là, le jeune homme qui conduisait est parti dans une vitesse inappropriée, une très grande vitesse, par rapport à une route de montagne. Nous avons appris après que les enfants hurlaient auprès du chauffeur pour qu'il puisse ralentir. Et le dernier virage avant d'arriver au village, la voiture a été tout droit et a heurté de plein front un arbre, puis elle a rebondi sur un autre arbre. Et donc sur les 4 passagers, 2 sont décédés, donc Roman et Étienne, qui est un jeune homme qui était avec le groupe à la discothèque. Et de ce que j'ai pu apprendre, Romane est morte sur le coup, ayant eu un choc à la tête extrêmement important, et ce qui tend à me laisser penser qu'elle n'a pas souffert, en fait. Voilà ce qui s'est passé ce jour, ou plutôt cette nuit, et ce qui a fait passer Romane de la vie terrestre à peut-être la vie au ciel. J'ai appris cette terrible nouvelle le jour même à 6h06 du matin, où la maman de Romane m'a téléphoné et m'a informé du décès de Romane avec beaucoup de précautions. J'ai reçu cette nouvelle de façon terrible. Ce que j'ai fait en fait immédiatement, outre que j'ai pleuré, je crois que je me suis rendu toute ma vie de cette espèce de bruit, je vais dire un bruit, un grognement en fait du fond de mon corps, un peu comme si j'étais un animal en fait qui exprimait ma peine. C'était pas ma peine, c'était peut-être ma désolation devant cette nouvelle catastrophique.
On était très en colère contre elle. Le sentiment, c'est que c'était un rejet de sa part vis-à-vis de nous tous. on ne t'aime pas. Oui, c'est curieux à dire, hein, parce qu'après coup, moi, je me dis, si elle l'a fait, c'est que, bon, elle était quand même déterminée. Là où je en veux, c'est de ne pas avoir cherché de l'aide auprès de moi aussi. C'est là le sentiment de rejet. Jusqu'à ses, je pourrais dire, jusqu'à ses 12-13 ans, on pouvait avoir le sentiment d'une adoption réussie. Et à partir de là, de ce qui s'est passé, on peut se dire qu'il y a eu un rejet de tout, de sa part à elle. Elle m'a laissé quand même un grand cœur sur son armoire le matin avant de partir. C'est tout ce qu'elle a laissé, mais elle n'a rien laissé à son père, qui s'est beaucoup, beaucoup investi avec elle, qui l'a beaucoup soutenue et qui a évidemment, elle a aussi senti ce rejet massif.
Sachant l'amour que se portaient le frère et la sœur, comment réussir simplement à donner cette nouvelle à son frère, donc à Zéphir, mon fils, qui à l'époque avait 17 ans et 11 mois. Comment réussir à lui dire que sa sœur était, on va dire, n'était plus sur la terre? Je crois que c'est sans doute ce qui était le plus dur au cours de cette journée, devoir annoncer à son frère que sa sœur était morte dans un accident. Voilà, et je crois que le fait d'avoir vu son corps m'a permis très rapidement de l'intérieur de savoir qu'elle était bien morte, et que tant que je ne l'avais pas vue, c'était tellement brutal et tellement abstrait que peut-être une part de moi-même pouvait encore espérer que cette nouvelle était inexacte et que Romane était toujours vivante. Mais ce n'était pas le cas, Romane était morte. Et de voir son corps... authentifier cette terrible nouvelle. Et en même temps, j'ai pu énormément pleurer très proche d'elle, et je crois que ça m'a permis d'évacuer une partie de ma tristesse immense. Le mardi soir, vers 19h, j'étais présent à côté d'elle, et j'ai été le dernier finalement à l'accompagner avant que le cercueil soit refermé et scellé. Je serais tenté de dire avec émotion que de même que j'étais le premier, outre le corps médical, à l'accueillir à sa naissance, j'ai été le dernier à la voir, à voir son corps au moment où le cercueil a été refermé. Et à ce titre, je trouve que c'est une responsabilité paternelle grande d'avoir pu accueillir mon enfant et d'avoir pu lui dire adieu. Voilà, il y avait un début, il y avait une fin.
Je crois qu'on trouve des ressources en nous-mêmes. Heureusement. Alors, mes ressources, ça a été donc d'abord de me tourner vers celui qui m'a le plus aidé, qui était mon analyste, et puis après de mettre en place des garde-fous, peut-être, pour éviter de... pour aller vers la vie. Alors, les garde-fous, ça a été une petite fille que j'ai prise en parrainage, qui avait à ce moment-là 8 ans. Je la prends tous les mardis soirs et je la ramène le mercredi, je la prends le jeudi de temps en temps, puis de temps en temps les week-ends. Et puis elle part en vacances aussi avec moi, elle est partie en vacances avec moi. Parce que, bon, je parle du sentiment de rejet, d'abandon que j'ai eu au moment où ma fille est partie. C'est un arrachage. Je pense qu'on le ressent comme un arrachage total de soi, d'une partie de soi. Ce qui explique la nécessité peut-être de retrouver un enfant. On ne peut pas remplacer, bien sûr. Non, ce n'est pas pour remplacer, mais peut-être pour se donner la preuve qu'on n'a pas fait mal. Qu'on n'a pas fait mal. Si un enfant se suicide, on peut avoir l'impression qu'on a tout raté. Hein? Donc pour se donner la possibilité de réparer.
Dans les jours qui ont suivi, j'ai toujours poursuivi mon travail. J'ai l'impression que continuer à faire ce que je faisais était un moyen de, à la fois de garder pied, donc de poursuivre mon travail, de poursuivre le fait de voir du monde, et que c'était peut-être aussi, en faisant le mieux possible ce que j'avais à faire, une façon d'honorer Romane. Quelqu'un dans l'équipe avec qui je travaille m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et j'ai dit à cette personne, je lui ai dit « Ben voilà, depuis une dizaine d'années, nous travaillons ensemble et tous les matins, je vous dis bonjour et on serre la main. Bah, j'aimerais compter d'aujourd'hui qu'on puisse s'embrasser. » Elle m'a dit, bah, écoutez, bien volontiers. Et jusqu'à ce que cette dame parte en retraite, on s'est toujours embrassé le matin. Voilà, c'est peut-être un exemple qui peut illustrer comment la vie peut évoluer après ce type de drame. Et puis j'ai surtout essayé d'être entouré par des personnes auprès de qui je pouvais pleurer, auprès de qui je pouvais dire ma peine, sans trop envahir mes proches. Et donc, d'une part, j'ai rencontré un monsieur qui est psychologue et qui reçoit des personnes qui sont marquées par un deuil. Et ça m'a été très précieux. Après, j'ai essayé d'avoir recours à beaucoup de massages, parce que j'ai toujours eu l'impression que mon corps avait endurer cette épreuve fortement et que le massage permettait peut-être d'assouplir les tensions, de dénouer les nœuds.
L'envie absolument de comprendre, une envie je crois de contrôler les choses, et ma réaction ça a été de m'accrocher évidemment à tous les textes qu'elle avait pu écrire, à tout ce qui avait été des témoignages avec ses amis, avec le blog qu'elle avait tenu, avec Facebook, comment se reconstruire, comment voir l'avenir sereinement, comment accepter les bonnes choses. Heureusement qu'elle n'était pas fille unique. L'avenir, ce sera évidemment les enfants de mon fils, puis lui aussi. Je ne voulais pas m'installer dans quelque chose de morbide, parce que ce n'est pas moi, ça n'aurait pas été moi. Mais en même temps, comment vivre bien après un événement pareil, où on a fait partie d'un groupe où d'autres parents avaient vécu la mort brutale d'un enfant, ce qui nous a tous rassemblés, c'était la brutalité. Il n'y avait que peu d'enfants qui s'étaient suicidés, heureusement, mais tous, on avait subi une mort qui avait été violente. Donc ça nous a beaucoup rassemblés, mais au départ, j'ai presque envie de dire que je les enviais de ne pas se sentir coupable. Une mort pour accident, une mort de tout accident possible, les parents se sentent quand même moins impliqués que la maladie aussi, que dans, effectivement, la mort par suicide. Donc, c'est terrible de se dire qu'on peut envier les autres, si on peut dire, de cette façon. Mais c'est vrai que le partage avec le groupe a fait beaucoup de bien.
On est dans Paris, là, et on va retrouver les amis de l'ancien groupe de parole. De temps en temps, on se voit, on essaye de le faire une fois par trimestre. On a vécu des moments d'intimité très grands et c'est en souvenir de ces moments d'intimité qu'on a envie de continuer à se voir.
Je pense que si on interroge chaque parent, notre enfant il est avec nous. Moi, je ne suis pas croyante, mais moi, Valentin, il est là à chaque fois qu'on dit Valentin. Qu'on montre une photo de lui ou qu'on évoque un souvenir avec lui.
T'as même pas besoin qu'on l'évoque.
Voilà, donc je vois pas comment un parent pourrait ne pas sentir son enfant présent d'une façon ou d'une autre, avec ou sans la foi.
Oui.
Peut-être que la foi aide, peut-être à passer certains caps, je sais pas.
Non mais je crois.
Peut-être, oui.
Mais je crois que c'est précieux qu'on s'accorde qu'il y a une part de notre enfant qui survit. Ça me semble essentiel.
Tant qu'on en parle, parce qu'y penser c'est bien, mais en parler, si on fait que y penser soi-même, il disparaîtra aux yeux des autres.
En parler, c'est aussi le faire.
Garder sa mémoire.
Bien sûr.
Tout à fait.
Mais parfois des amis me disent, ça t'ennuie pas qu'on parle le roman? Alors je dis non, c'est quasiment le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Parce que ça lui donne sa place.
J'ai entendu l'autre fois à la radio, je ne sais plus à quelle émission, quelqu'un qui disait qu'en fait, la personne mourait quand plus personne ne la reconnaissait sur la photo.
Oui.
Et en fait, c'est ça. C'est que le jour où plus personne ne les reconnaîtront sur les photos,
ce sera les descendants.
On sera mort.
On verra, c'est un ancêtre, mais on ne sait plus qui c'est.
Oui, c'est vrai qu'on va aimer les photos des familles.
Je crois que c'était le dimanche, donc 19 avril, le lendemain de l'accident qui a coûté la vie à Romane. Un homme est rentré dans le poste de gendarmerie où je me trouvais et j'ai vu ce monsieur se garer, descendre de sa voiture, marcher quelques pas jusqu'à la porte de la gendarmerie, rentrer. Et au fond de moi, je me disais, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a l'air épuisé, il a pas l'air bien. Mais mon regard était nettement un regard de jugement. Et lorsqu'il est rentré, à la question qu'il a posée au gendarme, j'ai compris que c'était le papa, et j'ai découvert que c'est le papa d'Étienne, le jeune homme, qui était dans la voiture et qui était mort aussi dans l'accident. Nous avons pris conscience l'un et l'autre que nous étions le papa d'un enfant qui venait de mourir la veille, et nous avons pleuré longtemps dans les bras l'un de l'autre. Et j'ai compris donc que ce monsieur avait perdu son fils. Et que dans un tel contexte, c'est évident que c'est pas la façon avec laquelle on est habillé, est-ce qu'on est bien rasé, est-ce qu'on est, on a pris la douche, tout ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que quelques heures en arrière, son fils était vivant, et quelques heures après, son fils était mort. Et c'est pas le moment de juger les autres. Et je crois que ça a mis dans ma vie un autre regard sur les autres, notamment celui-ci, c'est que en fait, quand je rencontre une personne, je ne sais jamais ce qu'elle a pu vivre. Et ça a été aussi très fort vis-à-vis du chauffeur de la voiture dans laquelle les Roman et Étienne sont morts. Le jour du jugement, le 10 mai 2011, nous nous sommes tenus par la main dans une tenue de main inouïe qui a duré longtemps. Et nous nous sommes regardés très intensément dans les yeux, et l'un et l'autre, nous avons pleuré. Je n'avais pas de haine, je n'ai pas de haine pour ce jeune homme. Et j'ai l'impression que si je suis capable d'être bien avec lui, donc je serai sans doute capable d'entretenir des belles relations avec tout le monde. Alors, c'est peut-être une vision à la fois égoïste et angélique. Mais voilà, je crois que si, avec la personne qui a commis l'acte qui nous a fait peut-être le plus de peine au monde, je suis capable d'entretenir une relation d'être à être. Alors quelque part, c'est que je suis guéri, et quelque part, c'est aussi ce qui m'amène à être guéri, et je crois aussi pour lui, s'il sent que je m'intéresse à ce qu'il fait tout de suite, au travail qu'il va faire, je crois que ça peut peut-être contribuer à ce qu'il ne se condamne pas lui-même, qu'il a le droit de poursuivre sa vie la plus belle qu'il soit, quoi qu'il se soit passé.
Étant psychothérapeute, c'est vrai que on peut se sentir d'autant plus impliqué puisque on est censé savoir peut-être, entre guillemets, s'occuper d'un enfant, d'avoir au moins des instruments ou les outils qui permettraient au moins de ne pas faire des erreurs grossières. Et malgré tout, on s'aperçoit que la vie est un mystère et on n'en a pas la clé, on n'en a jamais la clé. Ça me rend encore plus coupable, évidemment. Bien sûr que je me sens d'autant plus coupable. Je me suis sentie d'autant plus coupable. Est-ce que j'en suis complètement sortie ? Je pense que quand même oui. Bon, le fait de ma vie actuelle me montre que la culpabilité n'est pas trop massive, n'est pas trop envahissante, on va dire. La honte de faire ce métier et en même temps de ne pas avoir mis ma fille à l'abri. C'est ça le sentiment de honte. Oui, la honte aussi, parce que j'ai du mal à en parler. Je dis spontanément que j'ai perdu un enfant, mais je ne dis pas de quoi mon enfant est décédé. Quand un enfant est mort d'accident de voiture ou de maladie, on le dit. Alors que de suicide, on ne le dit pas.
C'est marrant parce que, en disant pourquoi, j'ai presque l'impression que c'est comme un cercueil, cette boîte. Avant la mort de Roman, je m'étais déjà intéressé au sujet de la mort parce que ma sœur, en 2004, est décédée. Et donc, j'ai un certain nombre de livres, peut-être 40 livres, qui traitent de la mort. Il y a quelques mois, je me suis dit, je tourne la page. Ce sont des lectures qui m'ont été utiles pour mieux vivre, pour traverser cette épreuve. Donc je les ai mis pour partie dans une grosse boîte. Ils sont proches de moi, mais pas visibles. Donc c'est une ressource qui a été précieuse à un moment donné, mais qui, je souhaite qu'elle soit plus discrète aujourd'hui. De même, au même moment où j'ai mis la plupart de ces livres dans une boîte, j'avais un classeur dans lequel il y avait toutes les lettres de condoléances que j'avais reçues, des amis, des membres de la famille, de ministres. Et je me suis dit, c'est plus le temps des condoléances. Donc j'ai pris toutes ces lettres et je les ai brûlées sur le balcon, dans un pot de fleurs, un gros pot de fleurs. Et toutes brûlées. Et pour moi, c'était une forme de purification. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est plus le temps des condoléances. Maintenant, c'est le temps de vivre. Il y a aussi un poème qui est accroché au mur, ici. Donc ce poème, il a été écrit par Romane, c'est « Elle était enfant, je dis vacances, et déjà tu m'emmènes à un endroit merveilleux. Je dis câlin, et déjà tu me serres dans tes bras. Je dis amour, et déjà tu me dis des mots doux. Je dis histoire, et déjà tu me racontes la plus belle au monde. Je dis papa, et déjà tu es là. » Ça, je pense qu'elle avait peut-être 6 ans, autour de 6 ans. Donc c'était il y a déjà bien longtemps. Mais je garde ça comme... voilà, ça illustre la qualité du lien que nous avons toujours eu, en fait. Et donc ça, c'est un livre que Zéphir et Roman m'ont offert pour un Noël, qui s'appelle « Père, image de la paternité à travers le monde ». Donc ce sont en fait des pères du monde entier qui sont avec leur enfant. Et le fait qu'il m'ait offert cela, ça montrait qu'il savait l'importance que la relation que nous avions ensemble, l'importance qu'elle avait pour moi. Et donc c'est un cadeau aussi qui m'est très très précieux.
Aujourd'hui nous sommes le 25 février 2012. Dans une semaine nous serons le 2 mars et ça fera 3 ans. L'évoquer, c'est toujours très difficile parce que la peine est toujours là. Je peux dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle, mais c'est très fugace et ce n'est pas aussi envahissant qu'au départ. Il est évident que le temps fait quand même son œuvre. Ça, je sens bien qu'au bout de 3 ans, la peine n'est pas la même qu'au bout d'un an ou même 2 ans, que le chemin se fait, mais il sera encore long. Il sera encore long, c'est sûr.
Je suis le papa de Zéphir et de Roman pour toujours. Ça, c'est quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il se passera, être père et EST. Être père et pour toujours. Ça, c'est une joie. Et même si, eh bien, Roman, sa vie terrestre a été de 1993 à 2009, aujourd'hui, je suis son papa. Et donc, être père est vraiment quelque chose... merveilleux, quel que soit le déroulement de la vie de papa. Et ça, c'est peut-être l'aventure humaine la plus particulière que je vis. D'autant plus que c'est pas si fréquent de la vivre avec un enfant sur terre, un enfant au ciel. Donc, et là est une expérience particulière, voilà, qui a introduit dans ma vie une autre façon de vivre, une autre façon de découvrir la vie et d'être joyeux dans la vie.
C'était Parents pour la vie, un documentaire de Clara Lecoq-Réal. Je remercie Alain Perrier, papa de Romane, Aurélia, maman de Patricia, mais aussi Isabelle, maman de Valentin. Je remercie également Didier pour sa voix, Zéphir Perrier pour sa musique, Jean-Christophe Galen pour le mixage, Christophe Deleu pour ses précieux conseils, mais aussi Nathalie, Félix et toute la promo radio du QH 2012 pour leur soutien.